VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Il est 10h à Bamako, bonjour à tous. Trois soldats français ont été tués au Mali par l'explosion mardi d'une mine au passage de leur véhicule blindé. Selon un communiqué publié aujourd'hui par la présidence française, l'explosion est survenue lors d'une opération de la force française Barkhane à l'approche de la ville de Tessali, au nord du Mali. Selon le ministère de la Défense, les victimes se trouvaient à bord de l'engin de tête d'un convoi d'une soixantaine de véhicules qui a touché une mine et explosé. Une douzaine d'insurgés islamistes Shebab ont été tués en Somalie par des frappes de drones menées par les États-Unis, a annoncé le Pentagone mardi. Les frappes ont été menées lundi et mardi contre des cibles Shebab qui posaient une menace imminente aux forces américaines et somaliennes, a précisé un porte-parole du Pentagone, Jeff Davis. Au Soudan du Sud, la rébellion et le gouvernement font un pas de géant dans la mise en application de l'accord de paix d'août 2015. Alfred Ladegor, numéro 2 des rebelles, est entré à Juba. La formation du nouveau gouvernement est prévue la semaine prochaine avec l'arrivée du chef rebelle Riek Machar à Juba, Eric Manirakiza.
La mise en application de cet accord tant attendu avait été maintes fois retardée. L'arrivée annoncée de Riek Machar dans moins d'une semaine à Juba serait un symbole important pour enterrer définitivement la hache de guerre. Le numéro 2 de la rébellion, Alfred Ladegor, est arrivé mardi à Juba avec une délégation d'environ 60 personnes, un acte réaffirmant que la paix ne sera pas remise en question, a-t-il déclaré. Le gouvernement sud-soudanais s'est réjoui de cette avancée qui marque la fin de la guerre, selon Akol Paul, un haut responsable dépêché pour accueillir la délégation rebelle. Pour cimenter l'accord, il est prévu la formation d'un gouvernement de transition par le président Salva Kiir et son rival Riek Machar, nommé vice-président du Soudan du Sud le 12 février, un poste qu'il occupait déjà aux côtés de M. Kiir avant le déclenchement du conflit en décembre 2013. Toujours dans la mise en application de l'accord, un total de 2370 soldats et policiers rebelles sont déjà rentrés à Juba pour garantir la sécurité de leur chef. Mais malgré ce rapprochement entre les deux belligérants, les relations restaient fragiles entre les rebelles et l'armée qui s'accusent mutuellement de violer l'accord. Sur ce, Washington a appelé toutes les parties à respecter leurs engagements.
Et toujours au Soudan du Sud, deux employés d'une ONG ont été abattus près de la ville de Yei dans une embuscade tendue par des hommes armés, a annoncé aujourd'hui leur employeur, ce qui porte à plus de 50 le nombre de travailleurs humanitaires tués dans le pays en plus de 2 ans de guerre civile. Les deux victimes de nationalité sud-soudanaise travaillaient pour le Danish Demining Group, l'unité de déminage de l'ONG Danish Refugee Council.
VOA Afrique en direct de Washington.
Boko Haram a de plus en plus recours aux enfants pour perpétrer des attaques suicides, notamment au Nigeria, au Cameroun, au Niger et au Tchad. C'est l'UNICEF qui l'affirme dans un rapport intitulé « Beyond Chibok, au-delà de Chibok », un document publié près de 2 ans après l'enlèvement par le groupe islamiste nigérian de 276 lycéennes dans le nord-est du Nigeria. Voici l'éclairage de Laurent Duvillier. Il est chargé de communication régionale pour l'UNICEF.
Un des phénomènes que nous voyons et qui nous préoccupe, c'est l'augmentation du nombre d'attaques à la bombe et spécialement les attaques à la bombe qui impliquent les enfants. C'est en augmentation au Nigeria, c'était déjà le cas il y a un an, mais plus préoccupant encore au Cameroun, ce n'était pas le cas il y a un an. Et spécialement des enfants qui sont parfois très jeunes, qui ont parfois seulement 8 ou 10 ans et qui sont utilisés. Certains d'entre eux n'ont même pas connaissance de la gravité des actes qu'ils posent, mais ils sont instrumentalisés par le groupe armé, par Boko Haram, pour mener des actes terroristes contre leur communauté elle-même, contre leur famille elle-même. Et c'est ce qui est le plus horrible.
Laurent Duvillier de l'UNICEF. Les Syriens étaient appelés ce mercredi aux urnes pour des élections législatives organisées par le régime, même vilipendées par l'opposition. Les bureaux de vote ont ouvert dans les régions sous contrôle gouvernemental, soit un tiers du territoire où vit environ 60% de la population. Les résultats devraient être semblables à ceux des législatives de mai 2012, selon les experts. Le parti Baas, qui dirige le pays d'une main de fer depuis plus d'un demi-siècle, avait alors obtenu la majorité des sièges, même si plusieurs autres formations avaient été autorisées à y participer. Jean-Roger Bion, je vous retrouve dans 55 minutes pour un nouveau point de l'actualité.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.